marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'étude telle que nous devons la pratiquer ici doit être une recherche active et participante.
Mona Ozouf.
Une petite fille blonde aux yeux très clairs est grimpée sur un tabouret devant la bibliothèque. En se hissant sur la pointe des pieds, elle attrape un livre et va se blottir dans un vaste fauteuil où elle disparaît presque tout entière. Elle ouvre son livre et lit. Ce livre, c'est Silas Marner de George Eliot.
Dans le logement de fonction de sa mère institutrice, Mona Seuillet, petite, disposait des livres de celle-ci et déjà des siens propres. Et surtout, elle approchait avec respect de la bibliothèque de son père, militant bretoniste prématurément disparu. Le meuble avait été sculpté tout exprès pour lui par un ébéniste dans le meilleur style celtique. Dans cette bibliothèque dédiée à la Bretagne, il y avait un livre de George Eliot. Alors nous saurons bientôt qui fut George Eliot, que Mona avait découverte à 10 ans. Il est vrai qu'elle était déjà une grande lectrice. Pendant que ses camarades se livraient à des travaux d'aiguille, elle leur lisait des histoires à haute voix. Être retranché sur un bout de tissu rétrécit l'horizon, être penché sur un livre l'élargit. Devenue Mona Ozouf, l'enfant de Plouat, Côte d'Armor, a publié, sans s'y être vraiment préparé, une trentaine de livres. Son dictionnaire critique de la Révolution française avec François Furet, Les mots des femmes, Composition française, ont atteint un très vaste public qui a dorénavant assez de confiance en elle pour la suivre jusque sur le chemin de George Eliot, si oublié en France. C'est le thème de son dernier ouvrage. Comme quoi, une vie accomplie peut ressembler à son début. Mais attention, Mona Ozouf se méfie de l'autobiographie et de l'exposition de l'intime. Elle a cependant accepté qu'autour de ses livres se tienne une rencontre à Fontevraud. Les actes en paraissent chez Flammarion. À l'issue des conversations qui se sont tenues dans l'ancienne abbaye, il demeure, heureusement sur la carte, suffisamment de taches blanches. Ni le roman tel que l'aime Mona Ozouf, ni l'histoire qu'elle a si bien pratiquée, ne toléreraient des conclusions fermées.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Mona Ozouf, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous vous méfiez toujours de la première question. Et vous avez remarqué que Fontevraud, où vous avez été invité avec la ronde de vos amis en 2016, les actes viennent donc de paraître chez Flammarion, c'était, au XIe siècle, du fait de son fondateur, une abbaye mixte.
Oui, on peut y voir une annonce d'une spécificité française.
La mixité sexuelle.
La mixité sexuelle.
Oui, parce que on peut pas dire ça de beaucoup de pays du monde. Sans les femmes, l'histoire de la France serait radicalement différente.
La France passait, et peut-être passe toujours, en tout cas pour le pays des femmes. C'est très clair dans tous les récits des voyageurs étrangers. Quand ils mettent le pied en France, c'est le pays où les femmes sont visibles. La visibilité des femmes est un trait national. Peut-être du reste, ça subsiste aujourd'hui encore dans les affaires de voile ou de burqa. La volonté de voir les femmes... Oui, est un trait national.
Mais le fondateur de Fontevraud, Robert d'Arbrissel, il me semble que dans la double communauté, il y avait une communauté d'hommes et une communauté de femmes séparées, je rassure tout le monde, il souhaitait que la supériorité revînt à la baisse. Supériorité des femmes, c'est un thème que vous avez connu dès votre enfance.
Oui, oui, oui. La supériorité des femmes en Bretagne, en tout cas dans le Léon de mon enfance, est quelque chose qui ne fait pas de doute. Du reste, ça tient à quelque chose de tout à fait prosaïque et matériel, c'est que les hommes ne sont pas là. Les hommes sont sur les flots. Ils sont partis sur les navires de la marine marchande, ils sont au loin, parfois pour des campagnes qui peuvent durer 18 mois. Donc il revient aux femmes de gérer le quotidien.
Oui, mais sur le plancher des vaches, ils ne sont pas bons à grand-chose non plus.
Ma grand-mère, en tout cas, avait tendance à les considérer comme plutôt encombrants dans sa cuisine et les renvoyait volontiers au jardin.
Alors après une enfance austère, parce que votre père est mort, votre grand-mère craint que votre mère ne se remarie, aucun homme pratiquement ne pénètre dans la maison, ben vous découvrez la mixité sexuelle à la faculté. Et puis, jeune marié, vous voilà en compagnie de votre époux, grand historien, futur, Jacques Ozouf, et puis de couple ami nommé au lycée de Caen. Nicole Ledouarin faisait partie de ses amis.
Oui.
Est devenue perpétuelle de l'Académie des sciences. Michel Perrault, avec son époux Jean-Claude, faisait partie de ses amis. Elle est devenue une grande historienne, elle aussi. Alors ça, c'était un souvenir d'une émission que vous avez faite avec Emmanuel Laurentin, avec la Fabrique de l'Histoire. Vous évoquez ces années de Caen, on est au milieu des années 1950. Vous n'avez pas beaucoup de moyens, hein. Vous achetez une cafetière électrique en commun, mais enfin, chacun paye son billet et va voir. Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot, de Roger Vadim, et Kurt Jürgens dans le rôle du séducteur.
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme?
La tentation.
Vous avez une voiture pour moi?
Oui.
Elle est là?
Je suis venu avec.
Qu'est-ce que c'est?
Une Simca rouge décapotable.
Vous m'avez bien mis.
Pas encore.
Elle est jolie.
Tu auras la même. Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux.
Oui, il y avait le « Et Dieu créa la femme » qu'on est allé voir ensemble et dont les femmes sont sorties avec le sentiment qu'il fallait jeter son bonnet par-dessus les moulins. On a eu un moment de...
D'euphorie.
D'euphorie.
Oui, et ça je me rappelle.
Et presque trois, de folie collective. Et on avait, et nos maris nous considéraient avec incrédulité.
Tout à fait. Stupéfaction.
Stupéfaction, incrédulité, légèrement, pas hostile, mais légèrement critique. Oui. Par rapport à cette extravagance. C'est vrai qu'on était sortis de là, je ne sais pas, avec l'idée qu'on était des femmes libérées.
Premièrement, il y avait l'air du temps, et deuxièmement, il y avait ce déclic qui était l'exemple.
Oui, elle était belle, oui. Elle était absolument audacieuse, elle était impertinente surtout.
Oui, insolente.
Ça, insolente.
Insolente.
Et ça nous faisait beaucoup de bien, parce que... Malgré tout, nous, il fallait qu'on tienne notre rôle. Hein. On ne faisait pas les fofolles tous les jours, franchement. Hein.
Comme me disait Michel Perrault, on n'allait pas jusqu'à jeter notre bonnet par-dessus les moulins.
Non, et ça reste un peu un mystère, cette scène dont je me souviens parfaitement. Ça paraît aujourd'hui, quand on l'écoute, un peu niais, cet échange. Mais bref, mais je crois qu'on peut le comprendre... Simplement en remarquant que toutes les trois, nous appartenons à ce qu'on peut appeler un ancien régime des femmes. Et cet ancien régime des femmes se caractérisait, pour les jeunes filles de notre époque, par une vie amoureuse habitée par la terreur et par la honte. La terreur, la peur de l'enfant, la honte du « qu'en dira-t-on », la rumeur du voisinage... C'était quelque chose de tout à fait différent de ce que vivent les filles d'aujourd'hui. Et ça explique, je crois, pourquoi toutes les trois, et sans nous concerter, nous avons eu cette réaction presque d'émancipation, qui paraît aujourd'hui un peu niaiseuse, comme on le dit au Québec.
Aux rencontres de Fontevraud, où se retrouvent beaucoup de vos amis, vous expliquez qu'il faut entretenir les amitiés. Et l'autre jour, dans le train venant de Bretagne, je vous retrouve, bras dessous, avec Michel Perrault. J'ai osé vous comparer aux sœurs Goadec, qui étaient, on le sait, d'inséparables chanteuses. Et vous reveniez de Chant Libre à Rennes, où vous aviez parlé chacune de votre Georges. Georges Sand pour Michel Perrault et, on va y venir, Georges Eliot pour vous, les deux Georges.
Oui, c'est une rencontre de hasard. Mais qui nous fait plaisir, je pense, à l'une et à l'autre. Michel travaillait depuis longtemps sur George Sand. Moi, c'est un peu plus hasardeux, mais enfin, j'ai rencontré George Eliot. Il se trouve que les deux Georges peuvent être comparés sous beaucoup d'aspects. D'abord, le pseudonyme masculin pour l'une et pour l'autre.
Parce que George Eliot, c'est une femme.
Parce que George Eliot, comme très peu de gens, au fond... le savent, est une femme qui a adopté un pseudonyme pour abriter son œuvre du jugement condescendant qui frappe habituellement les ouvrages de dames.
Elles sont contemporaines, hein, George Eliot, 1819.
Elles sont presque
1880, Jean Eliot, Le Sand un peu plus vieille.
Eliot est la cadette, et surtout la différence, c'est que Eliot est une très grande lectrice de Sand, ce qui n'est pas, il n'y a pas de réciprocité. Sand ne connaissait pas Eliot, ou en tout cas ne lisait pas Eliot. En revanche, Eliot avait lu très jeune un très grand nombre d'ouvrages de Sand et les trouvait remarquable par le feu de la passion qui brûlait dans chez cet auteur.
Mais George Sand, telle qu'elle est décrite dans sa maison de Nohant, dans le dernier livre de Michel Perrault, elle est montrée en femme d'intérieur, amoureuse, généreuse. Alors le linge est dans les armoires, le service à thé est prêt, les repas sont plantoureux, destinés à beaucoup d'hôtes. Et vous insistez aussi beaucoup sur la description de l'intérieur des maisons chez George Eliot. Les services à thé, c'est jusqu'aux chauffe-théières, hein,
oui,
qui doit être regardé avec beaucoup d'intérêt.
Mais avec beaucoup d'ironie
aussi
chez Eliot. C'est parce que c'est une double description. Les chauffe-théières, les pinces à sucre, la porcelaine, tout ça compte énormément dans les vies des femmes. D'ailleurs, ça montre qu'une maison est civilisée de posséder tout cela. Mais Eliot, elle, le considère avec une grande ironie. Et les personnages dans lesquels elle s'incarne elle-même, comme la petite Maggie du Moulin sur la Flosse, ont un regard très, très ironique sur l'attachement aux objets. On ouvre l'armoire aux belles choses une fois l'an. La petite fille est conviée à admirer ces belles choses et elle est extrêmement dépitée quand, à l'ouverture du tabernacle, on voit sortir un chapeau emplumé. Donc, il y a la double description chez Eliot des objets du quotidien.
Oui, mais vous croyez d'expérience, Mona Ouzouf, qu'il y a du bonheur dans la douceur des habitudes.
Oui, je suis persuadée que les habitudes adoucissent la vie, la ritualisent. Et c'est très important de ritualiser sa vie parce que sans rite, une vie se défait dans l'insignifiance ou dans l'incohérence. Et c'est du reste ce que décrit Eliot, c'est ce qui reste de religieux chez elle. Cette volonté de rythmer l'existence par des actes, des scènes qui reviennent, qui se répètent.
Et ces rituels ne sont pas dérisoires. La fabrication des confitures chez George Sand, ça n'est pas dérisoire.
Ah non, ça n'est pas dérisoire du tout. Ça compte même probablement plus que chez Eliot. Je crois qu'Eliot ne faisait pas ses confitures elle-même.
Eliot adorait la musique. C'était pour elle l'art le plus important. Bon, elle n'a pas, comme George Sand, connu intimement Chopin, mais elle a rencontré Liszt.
Elle a rencontré Liszt.
Alors, en l'honneur de la Bretagne encore, Anne Kelefelek, qui interprète les jeux d'eau de la Villa d'Est de Liszt.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie aujourd'hui de Mona Ouzouf, une rencontre était organisée autour d'elle en 2016. Les actes en paraissent chez Flammarion et le dernier livre qu'elle signe, c'est chez Gallimard. L'autre, Georges, à la rencontre de George Eliot. George Eliot, écrivain, écrivaine anglaise de la deuxième moitié du 19e siècle, qui publie en 1872 ce qui est peut-être son œuvre la plus importante, dites-vous, et qui s'appelle Middlemarch. Nous sommes à un moment où les frontières bougent. Ça vous intéresse, les temps de réforme, de déplacement.
Oui, de transition, c'est une époque de transition. Et une époque où, au fond, tout le monde se sent, chez Eliot, dans les romans de George Eliot, au bord d'un monde inédit, d'un monde inconnu, ou d'un monde en gésine. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a l'industrialisation très rapide de la verte Angleterre. Il y a le changement des métiers nouveaux qui apparaissent. Il y a la mobilité. Il y a le chemin de fer qui vient éventrer les prairies. Bref, on est en face d'un monde dont on n'a pas absolument les clés. Et tous les personnages d'Eliot le ressentent. Ce sont des personnages divisés.
Alors celle-ci, c'est Dorothea, dite Dodo. Elle vit chez l'oncle Arthur, un magistrat qui est prisonnier d'injonctions contradictoires et qui ne sait comment agir. Dorothea, je dis Dodo parce que elle est surnommée ainsi dans l'adaptation de Claude Ronan-Manuel en 1976 pour l'ORTF. Dodo entretient sa sœur de la manière dont on pourrait réformer les injustices qui l'émeuvent dans cette petite ville du milieu peuplée d'une humanité moyenne.
Sir James a raison, tu montes merveilleusement bien, Dodo.
J'ai profité de ma promenade pour visiter Tipton. Et je suis revenue par Freshit. Eh bien, Freshit est beaucoup moins misérable que Tipton. À Tipton, toutes les fermes où peu s'en faut tombent en ruine. Les granges n'ont plus de portes, les barrières achèvent de pourrir. Et même les canaux d'irrigation ne sont pas entretenus. Il faudrait réparer les cottages anciens et en construire de nouveaux. Oh, il est si affreux de voir plusieurs générations entassées entre quatre murs. Et parfois dans une promiscuité effroyable. Mais comment voudrait-on que les gens s'élèvent dans de telles conditions? Ah, Célia, il faut que j'en parle à notre oncle.
Et Dorothée, tu sais bien qu'oncle Arthur ne veut rien faire pour ses fermiers.
Il faut amener l'eau à l'intérieur des maisons.
Et Dorothée, elle a des plans tout près, des dessins là, qu'elle peut produire à l'oncle Arthur et à qui veut les voir.
Oui, elle aime le bien commun. Elle veut améliorer les choses autour d'elle, ce qui n'est pas très facile à une jeune personne. Je crois que dans le roman, elle a 18 ans à cette époque. Elle n'est pas encore mariée. Et puis, son histoire est une histoire assez banale d'une jeune personne avec des ambitions généreuses et qui est rattrapée par la prose de l'existence et en particulier par un mariage calamiteux.
Alors, le premier mariage...
fréquent d'ailleurs chez les deux Georges.
Le premier mariage est calamiteux, le deuxième... Bon, il est banal.
Oui, non, mais moi je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que le deuxième est banal, on l'a beaucoup dit. On m'en a beaucoup dit que Dorothée avait abandonné ses aspirations généreuses pour faire au fond deux mariages, l'un vraiment désastreux et l'autre médiocre. Ça n'est pas du tout mon sentiment, parce que le deuxième mariage, après tout, Dorothée abandonne sans doute ses grands projets, mais vit avec qui elle aime. Et dont elle est aimée. Après tout, est-ce que c'est un si mauvais choix d'existence?
Mais si on parle politique, parce que nous sommes dans le livre Middlemarch, au moment d'une grande réforme électorale d'ouverture du scrutin en Angleterre, Dorothea, elle est progressiste avec ses plans. Et puis, le mariage malheureux, le mariage qui n'est pas banal, mais qui est un mariage qui conduit quand même à la répétition des gestes des jours, l'amène au conservatisme, d'une certaine manière. Conservatrice de progrès?
Oui, moi je ne dirais pas que ça l'amène au conservatisme. Je pense qu'elle est une conservatrice, par attachement aux entours, à la tradition, et par aussi peut-être acceptation dans l'existence de ce qui est donné. Il y a ça chez Dorothea, ça fait penser à la distinction qu'Anna Arendt établit entre ceux qui acceptent le donner, qui même peut-être parfois le bénissent comme tel, et ceux qui préfèrent ce qui est choisi et élu dans l'existence. Mais en réalité, c'est que nous aimons les deux à la fois. Et c'est vrai aussi chez Dorothée. Elle est généreuse, elle sympathise avec tout ce qui est de l'ordre du mouvement ou du développement. En cela, elle est fille de son siècle. C'est la fille du 19e siècle. Donc, elle est effectivement une progressiste en cela. Mais c'est une progressiste qui continue de croire à la conversation avec les morts et à la présence des morts parmi les vivants et au charme de la tradition. Au fond, qui de nous n'a envie de tenir ces deux registres à la fois?
Qu'est-ce qui est donné? Vous faites un texte dans les entretiens de Fontevraud chez Flammarion sur George Eliot, et puis une grande partie de ces entretiens est consacrée au rôle des femmes dans l'histoire, et notamment dans l'histoire française. Il y a des qualités féminines spécifiques, et puis il y a un donné qui vient de l'expérience propre des femmes avec leur corps.
Oui, je crois qu'on peut dire, d'ailleurs ça c'est controversé, effectivement, dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui existe comme du féminin, ça paraît parfois un propos, très peu, très conservateur, et très peu féministe au sens radical du terme, parce que c'est accordé, semble-t-il, beaucoup à la nature, et la nature est évidemment honnie du féminisme, que j'ai envie d'appeler intégral ou intégriste, selon les cas. Mais moi, je pense qu'il y a effectivement... Alors là, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Je crois qu'il y a quelque chose, et d'ailleurs Eliot le décrit très bien, quelque chose qui est spécifique aux femmes, il y a quelque chose comme du féminin, qui naît d'ailleurs de... Voilà, qui naît des conditions qui lui sont faites. Les femmes font plus vite que les hommes connaissance avec la nécessité, à travers la forme de l'enfant. Les femmes sont donc beaucoup plus... Enfin, la perspective procréatrice existe chez les femmes très, très jeunes, même si elles n'ont pas d'enfants et si elles ne veulent pas en avoir. Mais l'enfant est là comme perspective imaginaire, ce qui n'est pas le cas chez les hommes et ce qui décrit une irresponsabilité masculine face à une responsabilité féminine. Donc je crois qu'il y a quelque chose comme du féminin. En revanche, et ça c'est aussi une leçon de George Eliot et une leçon magnifique, il ne faut pas essentialiser ces qualités spécifiques, c'est-à-dire il ne faut pas penser qu'on ne puisse pas se désaffilier de ces caractéristiques. Et ce que George Eliot montre merveilleusement, c'est que après tout, une femme peut ne pas se confondre avec la maternité et même la refuser. Il y a un de ces personnages dans Daniel Deronda qui refuse le destin maternel. Et en revanche, il y a un personnage masculin, le tisserand Silas Marner, que vous avez évoqué, qui montre que l'instinct maternel n'est pas forcément spécifique aux femmes.
Mais une des spécificités du corps féminin, c'est la nécessité apprise vite,
oui,
avec les règles, de composer avec des limites. Et puis, après les règles, la ménopause. Tenez, la voix de Simone de Beauvoir, qui apprécie au moins une œuvre dans les livres de George Eliot.
C'est Le Moulin.
Le Moulin sur la Flosse.
Le moment est arrivé de dire « jamais plus ». Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisé de fatigue dans l'odeur du foin. Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme. Maintenant, autant que mon corps, mon imagination en a pris son parti. Malgré tout, c'est étrange de n'être plus un corps. Il y a des moments où cette bizarrerie, par son caractère définitif, me glace le sang. Ce qui me navre, bien plus que ces privations, c'est de ne plus rencontrer en moi de désirs neufs. Ils se flétrissent avant de naître dans ce temps raréfié qui est désormais le mien.
Mona Ouzouf.
Oh, c'est une description magnifique de la vieillesse et une description tout à fait bouleversante. C'est aussi une description qui accentue la part du subi dans les existences et qui réduit considérablement la part glorieuse du choisi. Ce qui, pour Simone de Beauvoir, est particulièrement, je trouve, touchant.
Oui, mais le simple fait de prendre soin de soi, c'est du courage, c'est une affirmation de liberté, de volonté.
Oui, bien entendu. Bien entendu, je pense du reste, quand vous le dites, ça m'évoque un texte de Henry James, où Henry James dit que Tel est le courage des femmes françaises, dit-il, qui lui avait paru dans un premier temps et dans un premier séjour parisien comme un peu grinçante, apprêtée, artificielle. Plus l'œuvre de James se poursuit et plus James reconnaît qu'il y a dans cette volonté de l'apparence une forme de courage et presque d'héroïsme, dit-il.
Alors, une vie accomplie revient toujours au début. J'aimerais évoquer des sources importantes pour vous qui sont développées dans les actes des rencontres de Fontevraud. Portrait d'une historienne chez Flammarion. Les séminaires qui vous ont formé quand vous aviez commencé à achever vos études. Le séminaire de François Furet, grand ami avec qui vous avez beaucoup écrit, et pas seulement le dictionnaire critique de la Révolution française. Et puis le séminaire d'un maître plus âgé, embrumé de mystères et qui suscitait, au moins chez des plus naïfs comme moi, qui en étaient parfois, la ferveur. J'ai nommé Alphonse Dupron.
Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là, partout alentour, en nous et hors de nous, et que, malgré tous nos efforts, il sera toujours là. Refuser le passé, c'est se laisser accabler par lui, ou bien être conduit par lui. Réfléchissons à ce qui se passe pour chacun de nous. Malgré les ruptures les plus absolues et les plus simplistes, tout ce que nous avons vécu, le moindre événement, un souvenir infime, chaque chose s'inscrit aux profondeurs plus ou moins enténébrées de la mémoire. Démarquant une formule célèbre, je dirais volontiers que notre vie se compose de beaucoup plus de passé que de présent. Tout notre art de vivre et notre force vraie réside alors à équilibrer dans notre existence les trois dimensions du temps, le passé, le présent, l'avenir. Quant au passé, rien d'autre à faire que de l'accepter dans sa masse immense et ténébreuse. Une acceptation vraie de ce passé impose de le respecter en tant que tel. Et le respecter, c'est faire en sorte que nous ne l'utilisions pas pour nourrir les conflits de passion qui agitent notre présent.
Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un art de vivre que de faire de l'histoire en composant
et en équilibrant
la part du passé, du présent et de l'avenir.
Oui, il y a les deux mots de l'équilibre et de la composition. Et il y a aussi quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce texte et qui d'ailleurs était très frappant chez lui, qui était l'assentiment. L'assentiment au passé, l'assentiment à ce qui a été. Et au fond, un assentiment qui est le remède contre le ressentiment. Et chez lui, il y avait constamment ça. Surtout ne pas être justicier par rapport à son passé et y consentir. Ça, je trouve que c'était remarquable chez lui, avec, et ce qui va évidemment de pair, un accent mis sur l'attention comme vertu fondamentale. La capacité d'attention à l'autre et d'écoute c'était ce qu'on apprenait quand on mettait le pied au séminaire d'Alphonse Dupron. Je pense que vous en êtes d'accord.
Pas d'histoire justicière et une manière de porter le regard.
De voir.
Donc, portrait d'une historienne chez Flammarion, sur l'initiative de Patrick Deville et d'Antoine Debecq. Et l'autre, Georges, à la rencontre de Georges Eliot aux éditions Gallimard. Merci à vous.
Merci.
L'émission a été préparée par Eline Kahn et Gulesco avec Franck Olivard, la réalisation Lise Combe et à la technique Guillaume Brou.